France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h31, Camille passe au vert.
Et je ne sais pas s'il vous arrive de manger du poisson, mais si c'est le cas, et à moins que vous ne l'achetiez directement à votre pêcheur, savez-vous comment il a été sorti de l'eau ?
J'avoue qu'en fait, je ne me pose pas la question de comment il a été pêché, et par qui, et tout ça, quoi.
Et pourtant, il y a moyen de le savoir, puisque la mention de la méthode de pêche est obligatoire, que ce soit chez le poissonnier ou en supermarché, où une méthode domine, industrielle, le chalutage de fond. Frédéric Lemanac est directeur scientifique de l'ONG Bloom.
En France, on a une très grande partie, peut-être 70% des poissons qu'on retrouve sur les étals de poissons sauvages, en excluant le saumon d'élevage ou la crevette d'élevage qui va être pêché avec ce chalut de fond, puisque la grande distribution a besoin d'avoir un apport constant de la même espèce au même prix toute l'année. Donc c'est vraiment le chalut de fond qui va être privilégié par la grande distribution.
En particulier pour le cabillaud, le merlu, les langoustines aussi, toutes les espèces dites démersales, c'est-à-dire les espèces qui vivent sur le fond des mers et des océans. Mais cette méthode du chalut de fond, à ne pas confondre avec le chalut pélagique, celui de surface qui capture par exemple les sardines et les harengs, le chalut de fond donc est très critiqué, c'est peu de le dire, et cela depuis toujours.
Quand ça a été inventé au 14e ou 15e siècle, son utilisation était passible de la peine de mort.
Et ouais, ça rigolait pas parce que catastrophique pour les écosystèmes marins, et ce n'est pas dur à comprendre quand Nicolas Fournier de l'ONG Océana, cette fois, décrit le système.
On parle souvent du bulldozer des océans. C'est vraiment des engins immenses qui font plusieurs centaines de mètres, qui sont lestés. Donc on a des parties métalliques qui vont permettre de pénétrer dans les fonds marins pour racler le fond marin, pour récupérer toutes les espèces qui se trouvent sur leur chemin. Donc c'est vraiment très très peu sélectif. On a beaucoup d'espèces menacées ou protégées qui sont capturées. Jusqu'à 70% des captures ne sont pas des captures volontaires. C'est-à-dire qu'on va rejeter, mortes ou agonisantes, des espèces qu'on ne voulait pas.
Des requins, des raies, des dauphins, marsouins, phoques, tortues parfois, sans parler des habitats, hein, les récifs, les rochers, broyés et balayés eux aussi. Et cela, magie de la législation, y compris dans les zones protégées. Et oui, ces chalutiers gigantesques ont rien qu'en Europe labouré pendant 2,5 millions d'heures en 2020. Ça fait l'équivalent de 285 années. 2,5 millions d'heures dans les aires marines protégées, comme celle française des mers celtiques dans le golfe de Gascogne.
C'est dans les européennes qu'on retrouve les plus fortes intensités de chalutage au monde. Les aires marines protégées, malheureusement en Europe, c'est vraiment du greenwashing, on va dire, parce que on appelle ça des aires marines de papier, parce qu'elles sont désignées dans la loi, donc elles existent sur des cartes. Mais il n'y a aucune mesure de restriction, et c'est vraiment une aberration écologique, économique également, mais il y a également un élément nouveau qui est l'aspect climatique, parce qu'en raclant les fonds marins, on libère du carbone qui était séquestré, qui était stocké donc de façon permanente, et on le relâche dans l'océan. Et donc on ajoute comme ça, chaque année, une gigatonne de carbone dans l'océan, qui est l'équivalent plus ou moins des émissions de l'ensemble du secteur de l'aviation dans le monde.
L'ONG de protection des océans, Oceana, a donc lancé une pétition avec d'autres associations pour demander à l'Union européenne, qui sortira son plan d'action sur les milieux marins au printemps, dans le cadre de sa stratégie de protection de la biodiversité à l'horizon 2030, lui demander d'inscrire dans ce plan l'interdiction du chalut de fond au moins dans les aires protégées, les aires marines protégées, et puis des restrictions aussi sur les bandes côtières, puisque l'activité menace également la pêche artisanale. 152 000 signatures pour la pétition, c'est plus que le nombre d'emplois que génère la pêche dans l'Union européenne, mais le poids politique est très fort. Explication avec Frédéric Lemanac de Bloom.
On a vraiment un lobby qui est extrêmement puissant et qui empêche tout changement au niveau politique. Et pourtant, on le sait, même en France, par exemple, en 2006, on a eu un rapport qui s'appelle le rapport Poséidon, qui a été rendu au Premier ministre, qui disait clairement que l'avenir du chalut de fond était menacé, notamment à cause de sa consommation de carburant et de son impact sur les écosystèmes marins.
Les associations veulent faire pression, alors que la consultation publique lancée par l'Europe s'achevait hier.
Aujourd'hui, on a vraiment cette méthode de pêche archaïque, destructrice, climaticide, donc on voulait exposer cette aberration et appeler à un peu plus de courage politique pour mettre un peu en accord nos principes de protection de la nature avec la gestion des pêches.
Mais l'un des plus grands spécialistes de la question, le professeur d'halieutique à l'université de Colombie-Britannique à Vancouver, Daniel Poli, croit peu, lui, à une interdiction. Il a une autre idée.
C'est pas un but réaliste pour l'instant. Je pense qu'il faut passer par une autre dimension, savoir que le chalutage, c'est très cher au niveau du carburant. Ils utilisent beaucoup de fioul, justement parce qu'ils tirent un énorme machin derrière les bateaux. Et ces carburants, ils sont subventionnés. Donc, sans subvention, le chalutage, dans la plupart des pays du monde, il serait déficitaire.
Voilà, couper les subventions à gogo pour que l'activité, hein, qui représente aujourd'hui 26% de la pêche dans le monde, ne soit plus rentable au profit d'autres méthodes viables et ayant moins d'impact sur les fonds marins. Il y en a, hein, 40 ans que Daniel Poli y travaille. Qu'est-ce qui vous fait tenir encore aujourd'hui là-dedans ?
La bêtise de ce qui se passe. On devrait arriver à parvenir à faire passer le message qu'on ne va pas tout foutre en l'air quand même. On ne sait pas si on va gagner ou pas, mais on est forcé de ne pas accepter ce qui se passe.
Ne pas tout foutre en l'air et ne pas accepter, même si les poissons, comme le dit Frédéric Le Manac, sont bas sur l'échelle de l'empathie, les conséquences pour notre vie sur Terre sont considérables. En attendant donc une éventuelle évolution législative, regardez bien les étiquettes et privilégiez les méthodes de pêche dites passives, comme la ligne, les filets ou les casiers.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter, bien sûr, sur la page de la Terre au Carré.
France Inter.